Mes enfants sont à Charles Péguy.
Ah, super.
Mais Charles Péguy, le privé ou le public? Quel autre nom propre en France peut désigner à la fois une institution catholique et un bastion républicain? On pourrait penser à Claudel. Il y a un lien entre ces deux serviteurs de la France, mystiques tardifs, saisis au tournant du siècle précédent par un même dégoût, d'un matérialisme vidé de la beauté de son geste, par la machine et son règne. Un règne de feu et de fer, dont la grande guerre sera la répétition générale et le clap de fin pour Péguy. Mais qui es-tu, Charles Péguy? Pourquoi ton nom revient-il à la croisée des chemins des deux France, la catholique, la laïque, comme un Shazam, un totem d'immunité d'autant plus sacré qu'il demeure nimbé de mystère? Qui a lu Péguy aujourd'hui, à part Finkielkraut? Personne, ou presque. Ce qui est la moindre des choses s'agissant d'une œuvre fragmentée, mêlée aux événements, et comme soigneusement dissimulée la postérité par un éparpillement en autant de revues, commentaires, élégies et autres textes courts dispersés par l'époque et par l'auteur lui-même. Celui qui avait monté avant la Première Guerre, avec le passionnant Lucien Herr et le très grand Léon Blum, une librairie, ne s'est guère préoccupé de mettre ses propres écrits en forme. Working class hero, donc. Il a eu faim enfant. Il a rempaillé des chaises, appris la noblesse des gestes humbles, et n'a cessé d'affirmer que la société présente est mécaniquement organisée pour faire des pauvres et de la pauvreté. Contributeur majeur de la mystique républicaine, c'est lui qui invente les fameux hussards noirs, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Contempteur intransigeant de l'antisémitisme, y compris après sa crise mystique, il se battra en duel au pistolet pour défendre le nom moqué de son ami Albert Lévy. Dreyfusard impeccable de bout en bout, obligé par la vérité, comme Bernanos quelques années après lui, il ne saurait fermer les yeux devant les grands cimetières sous la lune. À défaut de connaître son œuvre, on ne peut qu'admirer son parcours brutalement stoppé à 41 ans, d'une balle dans la tête, au premier jour de la Grande Guerre. Dreyfusard et apôtre de la France éternelle, anticlérical et catholique, anticonventionnel et contempteur de l'époque, réactionnaire et visionnaire, mort trop jeune pour un écrivain, mais trop vieux pour un fantassin, 41 ans, il coche tout. Pourquoi, alors, n'en reste-t-il rien? Un peu par la nature de son engagement en littérature, intimement lié aux révoltes que lui inspire son temps, un peu par la coquetterie issue de sa légende, un écrivain difficile à lire, avec ses longues élégies sur la supériorité du bois sur le métal et autres métaphores complexes. Un peu aussi, n'en déplaise à Finkielkraut, parce qu'il aurait laissé une production moins lisible que son parcours, faisant malgré lui de sa vie une œuvre. Charles est au fond une pré-rockstar. Il est aussi le précurseur d'une philosophie qui tentera de construire une alternative à la fois à la lutte des classes marxistes et à l'existentialisme sartrien. Une troisième voie, entre l'individualisme et le totalitarisme, entre communisme et capitalisme, au plus près des idéaux de justice, de liberté et surtout de dignité. Emmanuel Mounier, dont le premier livre est consacré à Charles Péguy, fonde dans la foulée le personnalisme. De cette quête qui animera en partie le débat intellectuel d'après-guerre, il ne reste pas grand-chose, si ce n'est pour les lecteurs les plus assidus de la revue Esprit. Entre Marx, Sartre, Trump et Mounier, inutile de vous préciser qui a été sorti du game. Reste la question du respect de la dignité humaine, la grande affaire de Péguy, dont on constate facilement l'impérieuse nécessité aujourd'hui. La pensée de Péguy aurait-elle un avenir dans le monde et l'humanité chahutée qui sont les nôtres? À voir. Pourtant, au-delà de la consistance de sa pensée, qu'il parle de politique, de religion, de la noblesse du geste de l'artisan ou de l'horreur industrielle, de la mystique religieuse ou patriotique, on trouve dans son œuvre éclatée quelque chose d'autre que des idées, quelque chose de précieux et inaltérable, le style. Incontournable d'Emmanuel Descolliers de l'après-guerre, l'adieu à la Meuse en est l'attachante illustration. Écrit en 1897, avant la reconversion mystique donc, avant le gouffre de l'affaire, avant l'inéluctabilité de la guerre aussi. L'adieu à la Meuse, avec ses alexandrins balancés, raconte l'arrachement impérieux de Jeanne d'Arc à sa campagne pour réaliser son destin de sauveuse de la France. Inutile de préciser qu'en 1897, Jeanne n'est pas la starlette d'une extrême droite en quête de symboles et de raisons de pavaner dans Paris. C'est le premier Péguy, anticlérical farouche et infatigable contempteur de l'injustice de l'argent qui écrit cette ballade. On y entend la nostalgie et la résolution de Jeanne. On y devine, certes, la spécificité d'un destin. Mais, au fond et aussi avec le temps, on y perçoit moins l'histoire d'une figure nationale que l'arrachement inéluctable qui attend l'homme ou la femme moderne. Partir, mener sa vie en rupture avec le rythme immuable de la nature, peut-être même de sa nature. L'adieu est une balade triste qui chante moins l'appel du devoir que la morsure de la séparation, voire de la fuite. L'histoire de quelqu'un qui quitte son village et par là son attache à la grande matrice de la nature. On songe alors à ce garçon qui fuira la vie que sa sœur va mener, une vie flouée par la misère prolétarienne américaine, un garçon qui se souvient des longues baignades dans la rivière qui les unissaient enfants et qui questionne le rêve moderne avec cette conclusion. Est-ce qu'un rêve qui ne se réalise pas est un mensonge ? Ou aspire encore. Et on se demande alors si The River, la rivière, de Bruce Springsteen, n'est pas la version actuelle de l'adieu à la Meuse. Plus actuelle, hélas, car dans la chanson, la nature immuable finit par s'incliner. La rivière finit à sec. Finalement, l'adieu confine presque au renversement. Plus que l'édification de la sainteté laïque d'une héroïne française du Moyen-Âge, on entend la souffrance très actuelle de l'homme moderne, arraché à ses racines pour marcher sur les routes du monde. Les rêveurs et les optimistes voudront croire que la Meuse coulera toujours.
Adieu, Meuse, endormeuse et douce à mon enfance, qui demeure auprès où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux où tu ne coules pas. Voici que je m'en vais en des pays nouveaux. Je ferai la bataille et passerai les fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux. Je m'en vais commencer là-bas les tâches neuves. Et pendant ce temps-là, Meuse ignorante et douce, tu couleras toujours, passant accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse. Ô Meuse inépuisable et que j'avais aimée, tu couleras toujours dans l'heureuse vallée où tu coulais hier, tu couleras demain. Tu ne sauras jamais la bergère en allée qui s'amusait enfant à creuser de sa main des canaux dans la terre, à jamais écroulée. La bergère s'en va, délaissant les moutons, et la fileuse va, délaissant les fuseaux. Voici que je m'en vais loin de tes bonnes eaux, voici que je m'en vais bien loin de nos maisons. Meuse qui ne sait rien de la souffrance humaine, ô Meuse inaltérable et douce à toute enfance, ô toi qui ne sais pas les mois de la partance, toi qui passes toujours et qui ne pars jamais, ô toi qui ne sais rien de nos mensonges fous, ô Meuse inaltérable, ô Meuse que j'aimais, quand reviendrai-je ici filer encore la laine, quand verrai-je tes flots qui passent par chez nous, quand nous reverrons-nous, et nous reverrons-nous. Meuse que j'aime encore, ô ma Meuse que j'aime.
Et si vous êtes encore là, vous pouvez écouter La Rivière avec la complicité des Texas Instruments.
I come from down in the valley where Mr. when you're young bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. Drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river dive, whoa, whoa, down to the river we drive. And I got Mary pregnant, a man that was all she wrote for my 19th birthday. I got a Union cat and wedding coat. We went down to the cowhouse and wedding day smile, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river and into the river we dived. selection for the gents down company. Lately they'd rent me match work and account on the economy. All them things that seem so important, well, mister, they vanished in the air. No, I just act like I don't remember. Maria Glass, she don't care. But I remember us riding in my brother's cars, body tan and wet down at the reservoir. A night on them banks I lie awake and pull her closer just to feel her breath. Now those memories come